RFI.
Bienvenidos a este informativo de Radio France.
Je m'appelle Paris Live with me. Today's headlines.
Accent du monde. Philippe Le Caplain.
Bonsoir et bienvenue dans Accent du Monde. Ce soir, c'est avec Cristina Teaca de la rédaction roumaine.
Bună seara.
Pour nous dire ce qu'il faut penser de la démission surprise du ministre moldave des Affaires étrangères alors qu'il a mené les négociations d'adhésion de son pays à l'UE. Nasser Etemadi de la rédaction Persane.
Bonsoir.
Pour la lutte autour de la succession du guide iranien qui a déjà commencé et déjà un revers pour l'ancien président Hassan Rouhani. Et pour la rédaction en Bandankan, en ligne de Dakar, Sori Ibrahim. Pour les élections au Sénégal, à un mois du scrutin, il y a déjà 20 candidats déclarés, mais pas les deux poids lourds de l'opposition. Avant cela, ce qui se passe en France, au moment où nous parlons, il y a des routes bloquées, des déchets agricoles déversés devant des bâtiments publics, et puis il y a eu cet accident mortel impliquant une agricultrice et sa fille. Le Premier ministre vient tout juste de s'exprimer à Montsatruc de Sally, village de Haute-Garonne, situé à environ 80 km de Toulouse. Gabriel Attal vient d'annoncer les mesures du gouvernement pour répondre aux revendications des agriculteurs. Il dénonce la pression des industriels de l'agroalimentaire, la hausse du coût du carburant et des réglementations qu'on complexe. Alors le chef du gouvernement met fin à la hausse sur le gazole non routier et s'oppose à la signature de l'accord commercial entre l'Union européenne et le Mercosur, c'est-à-dire un groupe de pays d'Amérique du Sud. Il faut savoir que, désespérés ou pris à la gorge par les dettes, deux paysans français se suicident tous les jours. Sorry, le mal-être des gens de la terre n'est pas que français. Hein. Ailleurs en Europe, le monde agricole grogne également.
L'agriculture est un secteur clé de l'économie, presque dans chaque contrée du monde. Mais au sein de l'UE, les producteurs se sentent de plus en plus acculés par certaines normes. Ainsi, la grogne des agriculteurs en Europe n'est pas née du jour au lendemain. Selon les principaux acteurs, les raisons de leur mouvement de colère sont multiples, reflétant un malaise profond. Un responsable du mouvement explique que les agriculteurs en France, par exemple, produisent dans des conditions difficiles en respectant tant bien que mal les règles, mais ils peinent à écouler leur production en raison d'une concurrence déloyale provenant d'ailleurs et non soumise aux mêmes contraintes. Ils soulignent la nécessité de s'interroger même sur l'avenir de ces secteurs. En Europe, notamment en France, en Allemagne, en Pologne ou aux Pays-Bas, les défis, selon les chercheurs, c'est de trouver des schémas pour améliorer les fonctionnements de l'agriculture tout en préservant l'environnement et permettant aux producteurs de vivre dignement de leur travail.
Cristina Teaca, les agriculteurs roumains protestent depuis plus d'un an, alors qu'en France c'est depuis une dizaine de jours. Ils dénoncent la concurrence déloyale de l'Ukraine avec la levée des droits de douane de l'UE en mai 2022 pour faciliter l'exportation de ces céréales. Et de fait, la Roumanie se trouve aujourd'hui en première ligne de la contestation européenne.
Après février 2022 et le déclenchement de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie, plusieurs États européens ont décidé d'ouvrir leurs portes aux céréales ukrainiennes pour soutenir l'économie de leurs voisins en guerre. Mais à partir de là, les producteurs nationaux ont été affaiblis. En avril 2023, la Roumanie, la Bulgarie, la Slovaquie, la Pologne et l'Hongrie ont pris la décision unilatérale d'interdire sur leur sol le passage des céréales ukrainienne. D'après ces 5 États européens, les exportations en provenance du pays en guerre déstabilisent fortement les marchés agricoles domestiques en réduisant notamment les revenus des agriculteurs locaux. La Commission européenne avait finalement décidé de soutenir les 5 États en leur accordant notamment des aides de plusieurs dizaines de millions d'euros et en autorisant un embargo partiel pour ces pays limitrophes de l'Ukraine. Mais en septembre, c'est justement cet embargo que l'Union européenne a décidé de lever, estimant que les mesures prises depuis le mois de mai avaient fait disparaître les distorsions des marchés. Une décision acceptée par Sofia et Bucarest, mais refusée de l'Hongrie et Pologne et la Slovaquie.
Alors là, on parle des États. Que disent maintenant les agriculteurs roumains? Quelles sont leurs revendications?
Pour eux, les céréales ne respectent aucune norme sanitaire et sont à coût réduit. En 2023, plus personne n'achetait les céréales produites en Roumanie. Les marchés étaient en chute libre, disaient les agriculteurs roumains. Il y a une semaine, les agriculteurs roumains ont bloqué plusieurs zones frontalières du pays et même les grands ports de Constanța pour alerter les autorités sur leur situation et obtenir que les céréales ukrainiennes ne fassent que transiter par la Roumanie. Parmi leurs revendications en 2024, un moratoire sur les remboursements des crédits, les versements plus rapides des subventions agricoles ou encore la mise en place des corridors aux postes frontières pour séparer les camions venus de l'Ukraine de ceux de l'Union européenne. Danuț Andruș, l'un des dirigeants des manifestants paysans, a déclaré à RFI que les agriculteurs restent dans la rue.
Problema națională este alta, este lipsa producției neprotejate în fața războiului din Ucraina. Este
On entend qu'il est particulièrement remonté, que dit-il?
Oui. En Roumanie, le problème est que la production nationale n'est pas protégée face à la guerre en Ukraine. Ensuite, nous ne sommes pas d'accord avec la vision de l'État qui n'apprécie pas du tout la production roumaine ni le travail de nos agriculteurs. Encore, Georgian Caloteu est un agriculteur qui a une exploitation agricole de 500 hectares à Buzău. RFI l'a trouvé dans sa manifestation à Afumați.
Avem și noi termene, avem rate la bănci, avem leasing-uri de plătit. Nu se poate, asta înseamnă zeci de mii de firme din sectorul agricol și transport.
Que dénonce Georgian Caloteu?
Nous avons tous des taxes à payer, mais on n'arrive pas à vendre nos propres produits. Cela signifie que des dizaines de milliers d'entreprises du secteur agricole feront faillite dans la prochaine période si le gouvernement roumain n'intervient pas, disent Georgian Caloteu. Les ministres de l'agriculture et des associations d'agriculteurs ont annoncé qu'ils ont arrivé à un accord il y a quelques jours, mais sans toutefois mettre fin à la mobilisation.
Sorry, vous êtes à Dakar, je le disais, en Afrique de l'Ouest, dans la région, l'agriculture est quand même le véritable poumon de l'économie. Mais là-bas également, le secteur agricole fait face à de nombreux défis en ce moment.
C'est exact. Les défis restent énormes pour le secteur agricole en Afrique de l'Ouest. Une région où les paysans représentent 65 à 70% de la population. Ces secteurs concernent la plus grande majorité de la population. Mais là, nous sommes clairement dans un registre tout autre. On ne parle pas d'une agriculture super industrialisée et mécanisée ou qui utilise principalement des nouvelles techniques de production. À certains endroits, l'agriculture reste très rudimentaire, même si, c'est vrai, au cours des dernières décennies, des progrès substantiels ont été réalisés avec l'élaboration des politiques nationales agricoles et des stratégies régionales.
Alors jusque-là, l'objectif de souveraineté alimentaire n'a pas été atteint et les producteurs continuent de souffrir.
Selon Mamadou Keïta, ingénieur d'agriculture et du génie rural à la direction régionale de l'agriculture de Kaï, à l'ouest du Mali, les producteurs font face aux aléas climatiques, donc confrontés à la gestion des ressources naturelles. Pour lui, quand on parle de gestion des ressources naturelles, la première ressource, c'est la terre. Alors qu'on assiste depuis des années à la dégradation des sols, ce qui fait que l'un des défis majeurs, c'est la restauration de cette ressource. Le secteur agricole africain est orphelin. Il n'a pas accès au système d'assurance, il n'a pas accès au crédit. La structuration des organisations des producteurs est encore à améliorer. Le système post-récolte en termes de stockage pose énormément de problèmes. À ce niveau, les pertes sont considérables.
Et beaucoup d'études et de recherches sont menées sur ce secteur agricole ouest-africain pour l'amélioration des rendements, la souveraineté alimentaire et surtout pour que les producteurs puissent vivre de leur production. Quelles sont les solutions proposées ?
El Hadj Tcherno Sissé, le coordinateur du Conseil national de concertation et de coopération ruraux CNCR au Sénégal, que nous avons pu joindre au téléphone hier, propose une approche concertée pour améliorer les conditions des agriculteurs dans la région. Pour lui, il faut d'abord cette reconnaissance des producteurs en tant que professionnels. Des professionnels, donc, qui ont une mission, c'est celle de nourrir la population. Selon lui, pour arriver à cette reconnaissance, il y a des conditionnalités. À ce titre, il donne des exemples, M. Eladj Tchernosissé, pour lui, un enseignant qui est aussi un professionnel dont le métier est d'enseigner et d'éduquer les enfants bénéficie de toutes les conditions pour accomplir sa mission. Il y a des écoles qui sont construites, il a un salaire qui est donné, il y a une protection sociale ou même des conditions pour mieux se loger. C'est donc un cadre favorable pour permettre aux professionnels de pouvoir agir et d'accomplir pleinement leur mission. C'est ce qui manque aux producteurs, d'après M. Sissi.
Voilà donc pour l'analyse. Au-delà de ça, Sori Ibrahim, les chercheurs préconisent une politique agricole qui devrait être cohérente et efficace.
C'est vrai, et on le disait tantôt, il y a beaucoup d'interventions des pouvoirs publics dans les secteurs agricoles dont l'efficacité reste à désirer. Les propositions sont donc comment financer l'agriculture, comment utiliser au mieux les ressources qui sont mobilisées et aussi comment garantir une gestion transparente de ces ressources. Là, on parle d'une bonne gouvernance des ressources qui sont mobilisées pour les paysans. Ensuite, les chercheurs préconisent une bonne gouvernance des ressources naturelles, c'est-à-dire tout ce qu'on appelle la base productive des exploitants. Certains proposent aussi une stratégie d'insertion et d'installation pour les jeunes qui, aujourd'hui, pour la plupart, en manque d'alternatives, préfèrent l'aventure par la mer ou le désert pour un autre horizon, alors qu'en Afrique de l'Ouest, les potentialités en matière d'agriculture ne manquent pas.
Pour ce qui est de l'Iran à présent, Nasser et Temadi, la part de l'agriculture dans l'économie iranienne est seulement d'environ 7,5%.
Exactement, alors que la part de la population active dans ce secteur est presque deux fois plus élevée. Cela veut dire, d'une part, le manque de productivité du secteur agricole en Iran, et de l'autre, le fait que les agriculteurs iraniens ont le revenu le plus bas, ne leur permettant pas de subvenir à leurs besoins les plus élémentaires. Comparé à l'Iran, la part, par exemple, de l'agriculture dans l'économie espagnole est 5 fois moins élevée, tandis que sa productivité est 2 fois plus importante qu'en Iran.
Ah, il faut dire que l'agriculture iranienne est confrontée à un enjeu de taille, c'est la sécheresse.
Oui, c'est la sécheresse et cette situation est étroitement liée à l'absence de gestion en général et celle de l'eau en particulier dans un pays confronté depuis plus de 5 décennies à une sécheresse dévastatrice qui a décimé la population agricole et vidé les villages de 50% de leur population. Cette population, en effet, est venue gonfler la population des bidonvilles autour des grandes agglomérations en aggravant et en multipliant les problèmes les plus courants qui vont avec, à savoir la pauvreté, la délinquance, la prostitution, la toxicomanie, les maladies et trafics de tout genre, surtout celui de la drogue.
Et on peut dire que Téhéran est devenu le concentré, la source majeure également d'une catastrophe écologique.
Oui.
Expliquez-nous.
Elle compte aujourd'hui plus de 10 millions d'habitants et entre 25 et 30 millions de personnes y entrent et en sortent chaque jour, alors que cette ville ne peut contenir finalement, dans le meilleur des cas, que 3 millions d'habitants. En fait, tout indique que l'Iran a besoin d'un modèle de développement en général, et celui de l'agriculture en particulier, à partir d'une gestion stricte et raisonnable de l'eau, et en même temps d'un modèle de développement agricole qui en dépendrait moins. À l'heure actuelle, plus de 80% des réserves d'eau du pays sont consacrées seulement à une agriculture qui fonctionne sur la base du gaspillage continu d'une source rare et presque gratuite, c'est-à-dire l'eau, et cela dans l'absence totale d'investissement et de technologies nécessaires pour en produire davantage.
Alors que se passe-t-il en réalité, très concrètement?
C'est le contraire qui se passe. Sous prétexte d'augmenter l'exportation non pétrolière, le gouvernement iranien a procédé à une surexploitation des ressources d'eau et de la terre agricole après avoir fait disparaître plusieurs grands lacs du pays, y compris le lac Drumi. Je vous invite d'écouter M. Darwish.
در زاویه‌ای که حاکمیت با فعالان محیط زیست داره اینه که فعالان محیط زیست میگن که این نوع توسعه‌ای که شما انتخاب کردید.
En fait, Mohamed Davish est la figure la plus emblématique de la défense de l'écologie et de l'environnement en Iran. On vient de l'entendre, il dit en gros que le régime iranien détruit toutes les ressources naturelles au nom de l'autosuffisance alimentaire et de la défense des valeurs de la révolution islamique face au soi-disant impérialisme américain. Donc cette aberration est aggravée par deux erreurs majeures et fatales.
Lesquelles ?
D'abord, par le développement continu des industries surannées et les plus consommatrices d'eau, celles par exemple du ciment, de la pétrochimie, de la métallurgie et du nucléaire, et cela souvent dans les zones les plus arides du pays. La métallurgie iranienne consomme 7 fois plus d'eau que les autres industries, et le central nucléaire de Bushehr, au sud du pays, consomme à son tour 7 fois plus d'eau que la métallurgie. La République islamique n'a cessé donc en fait de développer des industries en totale contradiction avec la réalité écologique du pays.
Autre erreur, d'après-vous ?
La deuxième erreur a été de multiplier durant des années la construction des barrages dans un pays où il pleut 5 fois moins que la moyenne mondiale et où les barrages aggravent le problème de la vaporisation d'eau en les stagnant sous le soleil aride des endroits les plus chauds de la planète, ce qui a contribué à la surexploitation, sinon du gaspillage des nappes phréatiques. En 14 ans, l'Iran a vidé des nappes phréatiques de plus de 74 milliards de cubes, c'est-à-dire 3 fois plus qu'elle n'en a produit. Avec l'épuisement des nappes phréatiques à travers le pays, l'Iran est de plus en plus confronté aux problèmes de migration et de l'immigration, de conflits entre les villes et les régions, dû à la pénurie et au partage d'eau, et à l'aggravation de la crise écologique. Cette situation a failli même récemment provoquer une guerre entre le régime iranien et les talibans en Afghanistan qui empêche l'arrivée d'eau de Helmand, dans la province frontalière et la plus pauvre de l'Iran, Sistan et Baloutchistan, qui a déjà toutes les caractéristiques d'une situation à bien d'égards explosive.
Voilà les problèmes de l'agriculture dans le monde. On le voit, ils sont très divers, mais finalement assez communs à la plupart des pays dans le monde. C'est Accent du Monde sur RFI.
Accent du Monde. Philippe Le Caplain.
Ce sera dans pile un mois le résultat de l'élection présidentielle au Sénégal. La veille, les électeurs auront élu le successeur du président Macky Sall. Il en sera largement question, bien sûr, sur RFI, mais faisons déjà un point ce soir avec la rédaction en Bandankan, qui est basée à Dakar. Sori Ibrahim, vous en êtes le rédacteur en chef. Alors, on connaît déjà de nombreux candidats qui postulent à la magistrature suprême.
Oui, Philippe, ils sont désormais une vingtaine de candidats, dont des femmes qui sont en liste pour briguer la magistrature suprême du pays. Cependant, deux poids lourds de l'opposition, Ousmane Sonko, actuellement emprisonné, et Karim Wad, le fils de l'ancien président Abdoulaye Wad, ne seront pas de la partie, car leur candidature a été invalidée par les conseils constitutionnels.
Alors, les opposants qui ont été recalés ne comptent pas en rester là, hein.
Oui, en plus de Karim Wade et Ousmane Sonko, ils sont une quarantaine à être recalés. Ils se sont d'ailleurs constitués en collectif réclamant que leur dossier soit réexaminé par les conseils constitutionnels. Ce collectif de candidats recalés mène déjà plusieurs actions dans ce sens. Il a déjà rencontré le corps diplomatique de l'Union européenne au Sénégal et à sa demande, certains du collectif ont été reçus par le président Macky Sall le mercredi 24 janvier. Mais au sein de ces collectifs, on sent déjà des tensions, car ils sont nombreux, ceux qui ont boudé cette rencontre avec les chefs de l'État.
Et du côté du Parti démocratique sénégalais de Karim Wade ?
Du côté du PDS de Karim Wade, il demande même la mise sur pied d'une commission d'enquête parlementaire pour faire la lumière sur les circonstances et les processus ayant mené à l'exclusion de leurs candidats et des autres. Le PDS dit vouloir cibler spécifiquement les problèmes de conflits d'intérêts, de corruption présumée, de violations flagrantes et manifestes du secret des délibérations du Conseil constitutionnel.
Alors, Sori, c'est une situation exceptionnelle, on peut même dire inédite, hein.
C'est une situation exceptionnelle et inédite. Effectivement, Philippe, c'est la première fois au Sénégal qu'un président sortant organise des élections et qu'il ne soit pas candidat à sa propre succession. Même s'il est représenté en quelque sorte par le premier ministre Amadou Ba, qui est le candidat de la majorité, son candidat, ça ouvre donc le jeu et rebat un peu les cartes selon les politologues sénégalais Babacar Diagne. Pour lui, c'est ce qui explique en partie qu'on se retrouve avec 20 candidats désormais en compétition pour briguer la magistrature suprême du pays, alors qu'à la présidentielle de 2019, il n'y avait que 5 candidats.
Alors vous disiez Karim Ouad et Ousmane Sonko ont été écartés de cette course à la présidentielle, alors que pourtant, ce sont des figures bien connues de la politique sénégalaise.
En effet, surtout Ousmane Sonko, qui est devenu au fil des ans le leader incontesté de l'opposition. Alors qu'on se rappelle, en 2019, c'était Idrissa Seck avec sa coalition qui était arrivée deuxième derrière Macky Sall. Mais Ousmane Sonko a su travailler, a pu convaincre une franche partie de la jeunesse, accompagnée donc un certain temps par d'autres figures de la politique sénégalaise, comme l'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall, dans le cadre de la coalition Yewi Askanoui. Il y avait une opposition assez forte qui a su s'imposer dans les élections locales et législatives passées. Par la suite, comme nous indique Babacar Diagne, Ousmane Sonko a voulu imposer, selon lui, un rapport de force avec ses appels à manifester, avec des déclarations fracassantes. Nous nous souvenons des manifestations de mars 2021 et juin dernier. Et plusieurs personnes ont été tuées lors des violences. Finalement, avec ces déboires judiciaires, l'opposant est arrêté et envoyé en prison depuis juillet dernier pour appel à insurrection, association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste et atteinte à la sûreté de l'État. Ousmane Sonko a également été condamné à 2 ans de prison pour corruption de la jeunesse en juin, mais acquitté d'accusation de viol au sein d'un salon de massage. Son parti aussi, PASTEF, a été dissous.
Et puis il faut rajouter que cette élection présidentielle a lieu alors que la situation économique est tendue au Sénégal.
Il est vrai qu'il y a la flambée des prix, la question de l'emploi des jeunes. On assiste notamment à cette crise migratoire avec des vagues de départs. Ce sont des milliers de jeunes qui tentent l'aventure par la mer pour gagner les côtes européennes et plusieurs perdent la vie. Et c'est aussi là les enjeux de ces élections au Sénégal. C'est ce qu'il nous disait justement il y a une semaine sur notre antenne, Bengali Diallo, qui est politologue sénégalais. Je vous propose donc de l'écouter.
Enjeu nous nous cachons, il y a fou niamouna. Mais l'amiral Haï Mounou est candidature, comment enjeu nous nous peut mesurer. Il y a Sénégal, je crois qu'enjeu follow est enjeu de gouvernance.
Que dit-il rapidement, sorry.
Là, il nous parle des enjeux de gouvernance, de l'éducation et des processus électoraux. Il insiste plus sur l'éducation car pour lui, quelle que soit la richesse d'un pays en or, en pétrole, en gaz, si l'éducation, la formation ne sont pas mises en avant, rien ne pourra fonctionner correctement. Les politologues Daouda Bengali pense même que tous ces jeunes qui prennent aujourd'hui la mer, c'est parce qu'il n'y a pas un système éducatif qui fonctionne correctement.
C'était Sori Ibrahim de la rédaction Monde en Camp de Radio France Internationale. Merci à vous. Changement à la tête de la diplomatie de la République de Moldavie, enclavée entre l'Ukraine et la Roumanie. Seulement quelques semaines après que les dirigeants de l'UE ont décidé d'ouvrir des négociations d'adhésion avec la Moldavie. Alors Cristina Teaca, vous êtes de la rédaction roumaine. Nicu Popescu s'en va.
Oui, il a démissionné de ses postes de vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères au sein des gouvernements pro-occidentaux de la République de Moldavie. Il a été à la tête de la diplomatie moldave depuis 2021, donc avant l'invasion russe en Ukraine, mais la guerre a tout changé. Le conflit en Ukraine a amené beaucoup de Moldaves à réfléchir à la vulnérabilité de leur propre pays. Beaucoup vivent dans la crainte d'une attaque russe. La Moldavie a introduit une demande d'adhésion à l'Union européenne en mars 2022 et il s'est vu accorder le statut de pays candidat à l'adhésion à l'Union européenne en juin 2022, lorsque Nicu Popescu était ministre des Affaires étrangères. Puis en décembre dernier, les responsables de Bruxelles ont donné leur feu vert à l'ouverture des négociations d'adhésion. On écoute Nicu Popescu.
Am îndeplinit cu succes obiectivele de politică externă stabilite împreună și alături.
În août 2021, lorsque j'ai pris mes fonctions, très peu de personnes pensaient que la Moldavie pourrait obtenir le statut de pays candidat à l'adhésion de l'Union européenne, qu'elle serait en mesure d'entamer des négociations d'adhésion avec l'Union européenne. Mais je suis fière de mon travail, dit lui, malgré l'adhésion russe, l'agression russe contre l'Ukraine et les effets dévastateurs de la guerre sur la République de Moldavie et l'ensemble du continent, nous avons réussi à gérer avec succès les nombreuses crises qui ont vu le jour, dit lui. Maintenant, Nico Popescu explique qu'il a rempli avec succès les objectifs des politiques étrangères établies lors de sa nomination et qu'en ce moment, il a besoin d'une pause.
În luna august 2021, în momentul în care am preluat mandatul de ministru,
puțin ar fi
crezut. Nicu Popescu explică că el restera la dispoziția du président Maia Sandu. La Moldavie partage plus de 900 km de frontière avec l'Ukraine. La président moldave a accusé la Russie de vouloir déstabiliser son pays. Moscou voudrait faire sauter les pouvoirs en place afin d'entraver les processus d'intégration.
Alors par qui est-il remplacé? Qui est le nouveau chef de la diplomatie moldave?
Le nouveau ministre des Affaires étrangère sera à partir de la semaine prochaine l'actuel vice-président du Parlement de Chișinău, Mihail Popșoi. Il fait aussi partie des partis pro-européens, les partis de l'action et de la solidarité au pouvoir en Moldavie, et la gestion des affaires européennes est confiée à Cristina Gerasimov.
Voilà, c'était Cristina Teaca de la rédaction roumaine de Radio France Internationale. Et maintenant, avec la rédaction persane, intéressons-nous à cette crise politique en Iran. L'ancien président Hassan Rouhani s'insurge contre le fait que le Conseil constitutionnel l'empêche de se présenter à la prochaine élection de l'Assemblée des experts, qui est composée de 88 religieux. Or, il y siège depuis près d'un quart de siècle. Hassan Rouhani accuse le Conseil constitutionnel d'avoir pris une décision illégale, émanant d'après lui d'une minorité totalitaire au pouvoir qui veut élire à la place du peuple. Alors, Nasser et Temadi, essayons d'y voir plus clair. D'abord, dites-nous, qu'est-ce que c'est que cette Assemblée des experts?
En fait, elle a pour fonction de nommer le guide, de surveiller ses actions et, si nécessaire, de le démettre de ses fonctions. Mais tout cela se passe en théorie. Dans la pratique, l'Assemblée des experts, comme le Conseil constitutionnel, est sous la mainmise totale de Guide lui-même. Étant donné que cette Assemblée se renouvelle tous les 8 ans, elle serait susceptible, dans son nouveau mandat, de désigner le successeur d'Ali Khamenei, âgé aujourd'hui de 80 ans et atteint d'un cancer de prostate, mais dont les pouvoirs et les prérogative à la tête de la théocratie iranienne dépasse largement celle d'un leviat.
Alors ça veut dire que finalement l'enjeu est de taille puisqu'il y va de l'avenir tout simplement de la République islamique en tant que telle.
Exactement. La même situation il y a 7 ans, rappelons-le, a coûté de la vie à un autre et ancien président iranien, le charismatique Ali Akbar Hashimi Rafsanjani, susceptible alors de remplacer le guide mais dont le corps a été finalement retrouvé dans une piscine dans des conditions très suspectes.
Alors est-ce qu'on peut dire que la guerre de succession a déjà commencé au sommet de l'État iranien?
Sans doute, et on peut même y ajouter que cette guerre est même menée en concertation avec un comité restreint des membres de l'Assemblée des experts sous l'égide de Guide lui-même qui est, selon les analystes, soucieux avant tout de faire continuer son héritage, à savoir la suprématie du clergé conservateur sous tous les plans. Alors, mais comparé à la nomination de Guide, après la mort de Khomeini, il y a 34 ans, la succession de Khomeini, dans la situation actuelle, est loin d'être évidente pour multiples raisons.
Et elle interviendrait dans un contexte tout à fait singulier.
Mais bien sûr, bien sûr. Donc, j'en privilégie en fait deux raisons. Le discrédit total du clergé, et par conséquent de gouvernement religieux aux yeux de la population iranienne, et la transformation interne d'une société profondément laïcisée qui va en finir avec toute forme de gouvernement religieux, comme on l'avoue, à travers notamment de soulèvements féministes depuis plus d'un an sous le mot d'ordre « Femme, vie, liberté ».
Et puis bien évidemment, il y aurait la réaction de l'armée à la mort de Khamenei quand elle arrivera, ce n'est pas encore le cas aujourd'hui. Et bien sûr, il en est question largement sur le site internet de la rédaction persane de Radio France Internationale. C'était Accent du Monde, toujours trop court, bien évidemment, pour parler de toutes ces problématiques dans le monde. Réalisation de Laurent Philippot ce soir.